Bonjour et bienvenue dans Back Channel, le podcast consacré aux coulisses de la politique internationale. Bilal Tarabé, vous êtes journaliste à France 24, vous avez vécu aux États-Unis, au Liban, mais aussi à Madagascar, et vous êtes spécialiste de politique internationale, en particulier du Liban. Bonjour.
Bonjour.
Phoenix, vous êtes romancier et spécialiste du renseignement. Bonjour de nouveau à vous.
Bonjour Laura.
Pour ce 13e épisode, je voudrais parler de la situation au Proche-Orient. Depuis le 7 octobre 2023, date de l'attaque du Hamas contre le sud d'Israël, le Proche-Orient est encore une fois en ébullition. Cette fois-ci, le conflit, d'abord limité à la bande de Gaza et au nord d'Israël, s'étend devant nos yeux. La bande de Gaza est presque entièrement détruite. Des dizaines de milliers de civils palestiniens sont morts, le Liban est de nouveau sous les bombardements, et l'Iran a déjà frappé Israël à deux reprises, le 13 avril et le 1er octobre. Bilal Tarabé, quelle est votre lecture de la situation ?
On est, de la part d'Israël, dans ce que j'appellerais une guerre de vengeance, avec des guillemets, c'est-à-dire qu'il y a une volonté d'Israël à travers son gouvernement, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, mais d'en finir une fois pour toutes avec ses ennemis, par la force, ce qui est compréhensible depuis les attaques terroristes du 7 octobre. Et pourtant, les attaques ont remis au centre du débat mondial, et le mot n'est pas exagéré, ce qu'on a appelé pendant très longtemps la question palestinienne, c'est-à-dire la part palestinienne du territoire à la fois d'Israël et des territoires occupés. Cette question palestinienne, il s'agit en réalité de plusieurs sujets en suspens qui n'ont jamais été réglés depuis des décennies et parfois même depuis la création de l'État d'Israël en 1948, à savoir donc évidemment son pendant palestinien, la création d'un État palestinien viable aux côtés d'Israël, le droit au retour, ce qu'on appelle le droit au retour des réfugiés palestiniens qui sont dans d'autres pays et des pays limitrophes, typiquement les réfugiés au Liban. D'autres questions plus contemporaines qui ont à voir avec les frontières, les conflits frontaliers qui opposent Israël au Liban et qui opposent Israël à la Syrie par rapport à ce qu'on appelle le plateau du Golan, mais aussi, et vous le disiez, vous parliez de l'Iran, ce conflit qui est ouvert depuis des décennies, d'ailleurs depuis la création de la République islamique d'Iran en 1979, à savoir la volonté du régime iranien, enfin en tout cas de sa composante religieuse et politique de détruire Israël, si je reprends leurs propres termes. Donc tout ça, ce sont des points qui ont été laissés en suspens ces dernières années, particulièrement depuis la deuxième intifada qui a eu lieu dans les années 2000. Et l'attaque terroriste du 7 octobre, eh bien, elle a rappelé au bon souvenir, alors, tragiquement des Israéliens, tragiquement des Palestiniens de la bande de Gaza, tragiquement des Libanais et de facto du reste du monde, qu'il y a effectivement un abcès dans cette région du monde qui n'est pas réglé. Et finalement, et je finirai ma réponse là-dessus, on n'en parle pas très souvent, mais il y a eu une revendication à l'attaque terroriste du 7 octobre qui a été faite par Mohamed Deif, qui était le numéro 2, si je veux simplifier, du Hamas dans la bande de Gaza, qui disait que, donc, entre autres, et parmi ça, c'est-à-dire sa littérature djihadiste disait que l'un des buts du 7 octobre était de remettre la question palestinienne au centre du jeu, et de facto c'est ce qui se passe. Non, toute la question est de savoir si les responsables de ce dossier, qui sont d'un côté les pays occidentaux pour Israël, de l'autre les pays arabes sunnites pour les Palestiniens, eh bien, vont se montrer à la hauteur de la tragédie qui est en train de se passer pour la régler ou pas.
Phoenix, que va faire Israël ?
Bon, la vraie question, si on s'intéresse à l'Iran, c'est la riposte, c'est quoi, quand et pour quelles conséquences. Donc, quoi, les options dont on entend parler, c'est les installations pétrolières, les installations nucléaires, avec évidemment des impacts complètement différents, des chances de succès complètement différentes. Dans un cas, on peut avoir une envolée des prix du pétrole si l'opération rencontre un certain succès. Dans le cas des installations nucléaires, alors là, On ne sait pas du tout ce que ça va donner, hein. Si elles sont détruites, partiellement détruites, si elles sont juste partiellement détruites, ça peut au contraire donner envie aux Iraniens d'accélérer le truc. Et la troisième option, qui est peu discutée dans la presse, c'est mais dont j'ai entendu parler en parlant avec certaines sources, ça serait une attaque violente, un peu à la Hezbollah, ou à la, plus à la Hezbollah d'ailleurs, sur les symboles et les sièges du commandement iranien, c'est-à-dire l'ennemi absolu d'Israël, donc les gardes révolutionnaires, ou alors même le siège du gouvernement, ou celui du président, etc. Ils se réservent véritablement cette possibilité. Alors, ça c'est quoi? Quand? Ça c'est aussi un autre sujet intéressant. On ne sait, évidemment, on ne sait pas. Mais ce qu'il est possible, c'est qu'il y ait un deal, eh bien, c'est ce qui est possible, mais on n'en est vraiment pas sûr, c'est ce qu'il y ait un deal entre les Américains et les Israéliens, donc entre la Maison-Blanche, donc Biden, et les Israéliens, pour ne pas frapper l'Iran avant le 5 novembre. Donc évidemment, Biden ne veut surtout pas de Trump. Après, c'est un peu paradoxal, parce que si on se rapporte, si on regarde l'histoire, il y a 10 ans ou il y a 20 ans, au contraire, les Israël qui frappe un pays et les Américains qui le soutiennent, ça aide énormément le gouvernement sortant. Mais là, on est dans un monde complètement absurde, dingue, où au contraire, tout le monde écoute Trump et quand les démocrates ou quand Harris parle de guerre au Proche-Orient, en gros, les électeurs s'en foutent un peu. Et ou de guerre en Ukraine, ils s'en foutent un peu. Donc, quand il y a beaucoup de gens qui disent ça va arriver après le 5 novembre, après, pour conclure sur ce point, moi, je dirais, quand on voit la façon dont fonctionne l'armée israélienne, c'est peut-être plus on va se dire que c'est après le 5 novembre, plus ils penseront que les Iraniens disent c'est après le 5 novembre, plus il y a des chances que ça se passe avant. Donc voilà. Et enfin, et pour quelles conséquences? Donc ça peut vraiment amener à un embrasement de la région d'une façon... passer une nouvelle échelle, c'est-à-dire que Gaza c'était une chose, hein, c'est le premier niveau, c'est la vengeance par rapport à l'attaque du 7 octobre. Ensuite, Hezbollah c'est encore autre chose, hein. Bon après, faut pas oublier quand même que le Hezbollah bombarde le nord d'Israël depuis plus d'un an. Après, oui d'accord, il n'y a pas eu beaucoup de civils israéliens tués, c'est normal, il y a eu 100 000, 200 000 Israéliens du nord qui ont été déplacés, donc par définition, ils ne vont pas être tués puisqu'ils ne sont plus là. Mais dans le cas de l'Iran, oui, là on passerait à un troisième niveau. Là on peut avoir quelque chose d'assez grave, tous les scénarios sont possibles. Juste un détail, les Iraniens ont déjà annoncé, c'est pas pour ça qu'ils le feront, que si les Américains assistaient les Israéliens dans leur attaque, dans leur riposte contre l'Iran, qu'ils se réservaient le droit à ce moment-là de reconquérir Bahreïn, qu'ils considèrent comme en gros territoire historique iranien, donc pourquoi pas. Donc voilà. Mais je crois réellement que Biden veut pas que ça arrive avant le 5 novembre, parce que en fait sa peur et c'est qu'il y ait des militaires américains tués avant le 5 novembre, donc ça va donner plus de points à Trump, ça c'est sûr. Après, s'il y a eu un deal avec Netanyahou, ça c'est tout à fait possible. Est-ce que Netanyahou le respectera? Ça, c'est encore un mystère.
Bilal, peut-on craindre un retour de la guerre civile au Liban?
En tout cas, c'est ce qu'on craint au niveau du gouvernement français récemment. Alors, plus ça dure et plus il y a un risque, en effet. Plus ça dure et plus il y a un risque, pourquoi? Parce que le poids que fait peser sur le pays le nombre de déplacés dans un pays qui est déjà en crise sociale et en crise économique, déjà extrêmement important. C'est-à-dire, si on prend le point de la survie des habitants, effectivement, les habitants eux-mêmes ne peuvent pas, déjà peuvent à peine... se nourrir, se loger, payer pour leurs besoins premiers. Alors, soutenir une population de réfugiés, ça devient compliqué. Mais c'est surtout autre chose. On a un Liban qui est divisé depuis quasiment sa création, mais alors ça dure encore jusqu'à aujourd'hui, entre partisans d'une solidarité, si vous voulez, pan-arabe ou pan-islamique, et que le Liban et les Libanais devraient être impliqués dans tous les conflits qui concernent la région, à commencer par le conflit palestinien, et vous avez une autre partie des Libanais qui n'est pas du tout alignée là-dessus. Donc, très concrètement, il y a des Libanais qui pensent que le Liban a été entraîné dans une guerre qui ne les concerne pas, à savoir que c'est le Hezbollah qui a, donc, de lui-même... enfin plutôt sous instruction de Téhéran, mais enfin disons de lui-même dans le contexte libanais, décider de commencer à frapper Israël après le 7 octobre pour soutenir le Hamas. Et ça, il y a une bonne moitié des Libanais qui étaient absolument contre dès le départ. Donc plus ça dure, plus le Liban est détruit, plus les gens sont littéralement sous les bombes, et plus ils risquent de se retourner contre la partie des Libanais qui soutiennent ce front en soutien à Israël. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a des choses qui sont beaucoup plus terre-à-terre. La grande peur en ce moment des Libanais et des gens avec qui je discute quasiment tous les jours, c'est que, par exemple, quelqu'un du... Parce que vous savez que le Liban donc, est très ségrégué géographiquement. C'est pour ça qu'on parle de régions chiites, de régions chrétiennes, de quartiers sunnites, de etc. Ce qui est totalement vrai. Mais la grande peur des gens, c'est que, par exemple, des membres du Hezbollah se déplacent dans des endroits qui n'ont rien à voir, que l'armée israélienne obtient l'information et que du coup l'aviation israélienne bombarde ce point qui n'a rien à voir avec rien dans l'esprit de ses habitants. C'est déjà arrivé une fois ou deux. Heureusement, ça n'a pas provoqué d'affrontement interlibanais, mais plus ça dure, plus ça risque d'arriver et plus ça risque encore une fois de s'embraser. Donc oui, en effet, il y a un vrai risque. Et je finirai simplement en revenant sur une déclaration de Benjamin Netanyahou qui a beaucoup choqué au Liban. Je pense que c'était début octobre, où il disait qu'il invitait les Libanais à se débarrasser eux-mêmes du Hezbollah, sinon ils subiraient le même sort qu'à Gaza. Alors, si vous prenez déjà la partie de la phrase « sinon ils subiront le même sort à Gaza », en soi, elle n'est pas extrêmement agréable et sympathique. Mais surtout, si on prend la première partie de la phrase, je vous invite à vous libérer eux-mêmes du Hezbollah. D'abord, si ça aurait pu être fait avant, ça aurait été fait. Et ça, c'est encore un autre sujet. Mais surtout, ça invite, en gros, les Libanais à se faire la guerre civile. Quand on sait qu'on est dans un pays qui l'a déjà faite pendant 15 ans, au prix de 150-200 000 morts, que la guerre civile a eu, pas seulement pour cause, mais quand même beaucoup pour cause, un conflit qui a à voir avec Israël, c'est-à-dire la présence des militaires de l'OLP de Yasser Arafat depuis le Liban qui attaquait Israël, c'est quand même extrêmement... si vous voulez, ça donne, malgré tous les éléments de langage du gouvernement et de l'armée israélienne qui parle de guerre pour libérer le Liban, qui dit constamment qu'elle n'a rien contre les Libanais et le Liban, mais seulement contre le Hezbollah, n'empêche que de les inviter à faire la guerre civile comme ils l'ont déjà fait pendant 15 ans, du point de vue libanais, on n'est pas hyper certain que ça indique une quelconque bienveillance ou considération envers les pertes civiles à minima dans le pays.
Phoenix, quel rôle jouent les élections américaines dans le timing de la riposte israélienne ?
Bon, je reparlais un petit peu, donc je vais aller vite En gros, on parlait du 5 novembre. C'est vrai que, donc, comme je disais, il y a les systèmes de défense THAAD, THAAD, qui ont été livrés par les Américains. C'est pour ça d'ailleurs que les journaux aux États-Unis parlaient de présence de troupes américaines au sol. Mais ce n'est pas parce qu'ils vont aller faire la guerre avec les Israéliens du tout. C'est tout simplement pour qu'ils apprennent justement aux Israéliens à utiliser ces systèmes de défense. Donc c'est ça la première chose. D'après ce que j'entends, ils sont quasiment opérationnels déjà. Donc c'est une histoire d'une semaine ou deux, donc ça c'est évidemment dans l'éventualité. Donc on sait qu'Israël évidemment dispose de trois niveaux de défense pour les missiles à courte, à moyenne et à longue portée, le Iron Dome, donc le dôme de fer, David Sling et le système Arrow. Mais les THAAD, ça apporte quelque chose d'encore plus fort, et donc l'idée c'est que ça complémente en fait l'ensemble des systèmes de défense antiaérienne d'Israël. D'accord ? Donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que oui, il y a peut-être un deal, hein, c'est ce qu'on entend, donc de toute façon pour que Netanyahou attende après le 5 novembre, mais finalement... C'est pas si important que ça. Je pense que je suis évidemment pas du tout dans la tête de Netanyahou, mais comme son but c'est de rester au pouvoir le plus longtemps possible, et en même temps poussé par son extrême droite, et de résoudre le problème une fois pour toutes. Après, il faut aussi qu'il compose avec son ministre de la Défense, qui n'est pas du tout d'extrême droite, Yoav Gallant, et avec ses chefs d'armée, qui... Bon, l'armée est très séculaire en Israël, donc ça c'est un truc dont on parle pas beaucoup, c'est qu'il y a un vrai problème de schisme en ce moment dans la société israélienne entre les séculaires qui ne sont pas au pouvoir, mais qui tiennent les commandes de l'armée, et les très orthodoxes ou les très religieux ou les idéologues qui sont en grande partie au pouvoir, puisque Netanyahou préside une coalition très compliquée, mais avec quand même 5 partis d'extrême droite. Donc voilà. Après, il y a le timing, et puis il y a aussi qui va gagner, on en parlera tout à l'heure. Bon, si c'est Harris, évidemment, ça sera probablement la présidente ou le président américain le moins favorable à Israël de l'histoire des États-Unis depuis 1967, mais c'est pas pour ça que la politique israélienne des États-Unis changera du tout radicalement. Elle sera peut-être encore plus un peu infléchie, voilà, parce qu'il n'y a pas aux États-Unis, il n'y a pas que l'opposition des Américains d'origine arabe contre la politique des démocrates, ce qui d'ailleurs leur posera sûrement des problèmes dans l'État du Michigan, parce qu'il y a une très forte population d'origine arabo-américaine, mais c'est surtout, évidemment, toute la jeunesse américaine qui est beaucoup moins pro-Israël qu'elle l'a été historiquement. Donc voilà, ça, il faut qu'ils tombent. Mais finalement, ça n'a pas changé grand-chose pour Netanyahou s'il y a Harris. En revanche, s'il y a Trump, alors là, ça peut être la fin des haricots, quoi. C'est-à-dire que là, Netanyahou, il a, en gros, quartier libre. Il faut faire à peu près ce qu'il veut. Alors après, ce qui compte, c'est évidemment les élections. Donc, même s'il y a Trump, c'est pas pour ça, comme de toute façon, il y aura des élections en Israël à un moment, et que depuis le 7 octobre, et même avant, même encore maintenant, alors que les succès militaires d'Israël depuis quelques semaines ont été quand même assez étonnants, surtout avec le Hezbollah, il a aucune chance de passer, en tout cas aujourd'hui. Donc, du coup, il y aura un gouvernement qui sera complètement différent, qui sera du coup peut-être pas du tout aligné avec la vision de Trump pour le Proche-Orient. Donc tout ça, c'est très compliqué.
Oui, je crois que c'était après la fin du mandat de Donald Trump, pour le remercier d'avoir déplacé l'ambassade américaine à Jérusalem, il a renommé une colonie israélienne dans le Golan, Trump City.
Ah ouais, je ne savais pas du tout.
Oui, il a une colonie donc, dans ce territoire qui est justement disputé entre Israël, la Syrie et une partie du Liban. Donc il y a une colonie qui s'appelle Trump City. Voilà.
C'est amusant. Il y a en Pologne, il y a une base militaire que le président polonais avait proposé à Trump d'appeler Trump Air Base. Et Trump avait trouvé, c'est tout à fait classique d'un ultra narcissique, avait dit non, faut peut-être pas exagérer, ça fait trop, quoi.
Ah oui.
Donc voilà, une fois qu'on a fait le compliment complètement délirant, eh bien du coup le réflexe c'est de dire non, là vous êtes trop gentil. Donc voilà, donc on va bien voir, mais encore une fois, moi je pense que Netanyahou, même s'il y a un deal avec Biden, de toute façon ce qui comptera c'est l'opportunité. Donc entre ne pas respecter le deal et frapper l'Iran exactement comme il le veut, et respecter le deal mais frapper l'Iran pas exactement comme il le veut, c'est très clair qu'il a choisi, quoi.
Bilal Tarabeh, le président Macron a récemment déclaré que Israël avait été créé par une décision de l'ONU, déclenchant aussitôt une réponse furieuse de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, et un émoi au sein de la communauté juive. Si le conflit s'envenime au Liban, ou si l'on assiste à une invasion terrestre d'Israël, voire une occupation de Beyrouth, quelle va être la position diplomatique française ?
Bon, on la connaît, elle est donnée assez régulièrement. Je vais vous donner les derniers éléments de position de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français, qui dit que la France ne fera pas défaut au Liban, que l'objectif c'est la nécessité d'un cessez-le-feu, d'une résolution diplomatique du conflit, c'est toujours lui hein, qui écrit, la fin des hostilités, de l'aide humanitaire et de soutenir les institutions libanaises et notamment l'armée. Le soutien à l'armée libanaise, c'est peut-être le point qui va un petit peu changer. Et ça, c'est ce que je pense on va pouvoir guetter dans les prochaines semaines.
Phoenix, Israël cherche-t-elle un changement de régime en Iran ?
Non, en tout cas pas pour le moment. C'est beaucoup trop dangereux. Parce que, évidemment, les conséquences sont tellement difficiles à mesurer. Puis on est dans une telle période d'incertitude, encore une fois, je sais qu'on en a parlé 10 fois déjà, les élections américaines, et on en reparlera parce qu'il n'y a jamais eu d'élection américaine qui avait un tel impact sur la situation internationale dans le monde, puisqu'on n'a jamais eu de politique étrangère depuis la Seconde Guerre mondiale. Il faut remonter en fait aux années 30 pour qu'on ait deux partis qui aient une vision de la politique étrangère aussi radicalement opposée. Tout ça à cause de Trump. C'est Trump qui a tout changé au Parti républicain. Donc, non, là, aujourd'hui, si la riposte a lieu aujourd'hui ou demain, ou même le 6 novembre, et même si Trump gagne le 5 novembre, il n'y a pas de volonté de changement de régime au niveau d'Israël. C'est trop. Et c'est trop parce que c'est trop dangereux. Hein. Benjamin Netanyahu, on peut dire tout ce qu'on veut de lui. Il est très idéologue, il est très influencé par l'extrême droite, il est jusqu'au boutiste, tout ce qu'on veut, mais il n'est pas fou. Et il n'est pas fou du tout, même, au contraire. Donc, il frappera durement l'Iran, ça, j'en suis certain. Mais en gros, je pense que son plan, c'est que si la riposte de l'Iran conduit à un embrasement dramatique du conflit dans la région et que Harris gagne, là, je pense qu'il a quand même peur qu'il y ait une sorte de rupture avec le gouvernement américain. Il ne faut pas oublier qu'il était Premier ministre à l'époque d'Obama et que quand même, et il n'a pas du tout apprécié le fait d'être snobé par la Maison-Blanche pendant des années et des années. Donc, je pense qu'il va faire attention à ça. Si en revanche, Trump gagne, ben, comme je l'ai déjà dit, la nouvelle administration Trump, elle fera le travail de Benjamin Netanyahu pour eux. Parce que très bizarrement, Israël est en guerre contre l'Iran et contre tous ses proxys, mais il y a aussi tout un passif dans l'administration Trump et dans les gens qui pourraient faire partie de sa prochaine administration contre l'Iran. C'est-à-dire que c'est assez difficile pour nous, Européens, à comprendre, mais bon, il y a évidemment ce truc qui n'est jamais sorti de la conscience américaine, qui est de la prise d'otage pendant 444 jours à l'ambassade des États-Unis en 79, qui en fait avait conduit en grande partie à l'élection de Reagan. Donc, il y a dans les gens autour de Trump un truc anti-Iran hyper fort. Puis c'est aussi, il ne faut pas oublier, c'est depuis, sur les 15 dernières années, c'est ce qui a le plus distingué les démocrates et les républicains en termes de leur politique, c'est l'attitude vis-à-vis de l'Iran. C'est-à-dire qu'Obama et Biden, c'est quand même eux qui ont essayé de concilier et de faire un deal avec l'Iran pour arrêter leur programme nucléaire, alors que, évidemment, Trump, c'est absolument pas ce qu'il veut faire. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer une guerre États-Unis-Iran et une sorte de guerre un peu terminale dans un scénario possible en cas d'élection de Trump? Oui, c'est tout à fait possible. Donc, évidemment, Netanyahou, pour lui, il n'a aucun intérêt à appuyer sur le bouton terminal avant de savoir qui va être le prochain président américain.
Peut-on imaginer un scénario où, avec un Hezbollah considérablement affaibli, on assisterait à une récomposition du pouvoir au Liban, Bilal?
Oui, un rééquilibrage plutôt du pouvoir au Liban. Si on schématise qui fait quoi en termes de force politique au Liban, on peut diviser ça comme ça. Vous avez d'un côté les partis qui sont anti-Hezbollah durs, mais qui sont aussi isolationnistes, c'est-à-dire qui prônent la neutralité du Liban. Donc, ceux qui sont plutôt dans la tendance, on ne veut pas s'impliquer dans les conflits, y compris le conflit israélo-palestinien. Là, vous avez les deux partis de la droite dure chrétienne libanaise, les Houet, donc les forces libanaises d'un certain Samir Jarja, dont on parle de temps en temps. Et vous avez les Kataeb qui sont, qui veulent se situer au centre, qui sont de la droite, sont les phalanges chrétiennes, les héritiers des phalanges chrétiennes de la guerre civile libanaise, et qui sont dirigés par la famille Gemayel. Ensuite, vous avez les gens qui sont anti-Hezbollah, mais pro-palestiniens. Voyez, donc là, on va avoir les sunnites du premier ministre libanais, qui est d'ailleurs, au moment où on enregistre, actuellement à Paris, Najib Mikati, et vous avez les druzes de Walid Jumblat. Les druzes, c'est une communauté qu'on retrouve aussi en Syrie, qu'on retrouve aussi en Israël, mais qu'on trouve au Liban et qui est représentée officiellement, et qui, eux, alors, changent un petit peu en fonction de l'atmosphère générale, mais qui restent quand même plutôt contre le Hezbollah et plutôt pro-palestinien. Et ensuite, vous avez les gens qui sont les alliés du Hezbollah, mais qui réfléchissent conséquemment à l'affaiblissement par Israël de ce parti slash milice, ou milice slash parti, on l'appelle comme on veut, à commencer par l'assassinat de son chef Hassan Nasrallah. Donc là, vous avez le CPL, qui est le parti chrétien de l'ancien président Michel Aoun. Donc ça, c'est la partie des chrétiens alliés au Hezbollah. Et vous avez surtout l'autre grand parti chiite dont on parle moins, qui s'appelle Amal. Il faut savoir que les gens qui ont créé le Hezbollah venaient d'Amal. La première organisation politique qui a rassemblé les chiites libanais, c'est celle-là. Elle est dirigée depuis des décennies par un certain Nabih Berri, qui est le chef du Parlement au Liban. Et moi, je pense que tout va passer par lui, parce qu'on voit ces dernières semaines des volontés. Vous savez, Hamal et le Hezbollah se sont fait énormément la guerre jusqu'à la fin, une guerre fratricide interchiite, jusqu'à la fin de la guerre civile. Depuis, ils sont alliés parce qu'ils ont au fond les mêmes intérêts. En gros, le deal entre les deux, c'est au Hezbollah les affaires extérieures et militaires et à Hamal les affaires intérieures et politiques libanaises. On voit Nabih Berri qui s'émancipe un tout petit peu. Il faut savoir que lui, il y a des décennies, était plutôt quelqu'un qui était partisan d'un compromis avec Israël. Donc, vous voyez, les choses sont pas... C'est pas les chrétiens sont contre, les chiites sont pour, etc. Ce serait très schématisé, la situation au Liban. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions qui ont lieu en ce moment au Liban entre les différentes forces politiques, parce que finalement... Un affaiblissement du Hezbollah, mécaniquement, ça fait monter tout le monde, tous les autres. Donc là, ils sont en train de discuter ensemble pour savoir si finalement ils peuvent reprendre un petit peu les affaires. Et on retient ce nom Nabih Berri parce que ça va passer par lui.
Une question pour tous les deux. Il y a quelques jours, des centaines de colons israéliens se sont réunis près de la bande de Gaza afin de revendiquer leur droit à la colonisation. Le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, rêvait il y a quelques mois de la valeur immobilière du front de mer à Gaza. Que va-t-il se passer ?
La bande de Gaza est complètement détruite. Hein. Je sais même plus quel chiffre utiliser, mais quasiment tout est détruit. Puis en plus, il y a des bombes partout, il y a des débris partout, il y a des réfugiés partout, les gens vivent sous des tentes, on le voit, les images sont là. Et là, bizarrement, un peu le contraire de ce que je disais sur la riposte immédiate sur l'Iran. Là, par contre, le résultat de l'élection américaine va encore une fois tout changer. Si c'est Harris, un gouvernement démocrate ne peut pas laisser faire l'extrême droite israélienne. Et évidemment, Israël ne peut pas se couper des États-Unis. Donc, s'il y a un gouvernement démocrate, eh bien, il y aura un grand projet de reconstruction de la bande de Gaza. Après, qu'est-ce que ça va donner pour les Gazaouis, où est-ce qu'ils vivent en attendant, et quand est-ce qu'ils peuvent revenir, et sous quelles conditions, j'en sais absolument rien. Par contre, ce dont je suis absolument convaincu, c'est qu'il y aura un grand projet symbolique où les États-Unis vont vouloir montrer qu'ils apportent la paix au Proche-Orient, et qu'ils réparent un peu en fait, toutes les destructions, et je suis assez convaincu que, c'est aussi dans l'esprit des accords d'Abraham, qui, rappelons-le, ont été signés pendant la première administration Trump, les Saoudiens, Bahreïn, les Émiratis vont être hyper impliqués là-dedans, ça aussi j'en suis convaincu. Si en revanche, c'est Trump qui gagne, alors là, c'est absolument pas ce qui peut se passer. Je pense que c'est l'administration américaine sous Trump, surtout la deuxième, aura aucun problème à suivre l'extrême droite israélienne et dire c'est bon, la bande de Gaza, les Palestiniens ils iront ailleurs. Et voilà, donc là j'ai aucune idée du scénario, mais il peut être pas très joli pour les Gazaouis en tout cas.
Oui, je suis plutôt sur la même ligne, hein, avec un contexte favorable pour la droite israélienne et l'extrême droite au pouvoir, une recolonisation de Gaza est tout à fait possible. Ce qu'on entend à minima dans les milieux sécuritaires israéliens, c'est de conserver un no man's land à la fois tout autour de la bande de Gaza, frontière avec l'Égypte incluse, ce qu'on appelle le fameux corridor de Philadelphie, et une route qui passe au milieu, en fait, qui coupe Gaza, la bande de Gaza en nord-sud, qui s'appelle le couloir de Netzarim aussi, d'en garder le point de contrôle. Il se dit que certains milieux israéliens voudraient vider le nord de la bande de Gaza, donc c'est-à-dire garder tout le monde au sud. Maintenant, il faut quand même avoir en tête que la bande de Gaza, avant la guerre, était déjà l'endroit le plus densément peuplé sur Terre. Donc si tous ces gens-là se retrouvent dans une partie tronquée du territoire, je vous laisse imaginer le résultat. Maintenant, c'est un peu ce que je vous disais précédemment, et on en revient au tout début du podcast, sur ces problèmes qui sont laissés en suspens depuis des décennies. Ça fait depuis l'année 2006 ou 2007 que Gaza est une prison à ciel ouvert. C'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont les ONG, les divers reportages à l'époque où les reporters avaient encore le droit d'y aller. Et ça fait, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont 18 ans ou 17 ans au moment où on se parle, on enregistre ce podcast, qui ont vécu toute leur vie dans cette situation. Et au niveau de la communauté internationale, ou en tout cas des partenaires, partie prenante minimum diplomatique dans ce conflit, à savoir l'Occident et les pays arabes sunnites, je précise, eh bien, on s'est dit peut-être que ça pouvait continuer éternellement comme ça, gouverné par le Hamas. Alors non seulement on en a vu le résultat pour les pauvres 2000 Israéliens qui ont été victimes de cette attaque, on en voit le résultat pour les plus de 42 000 Gazaouis qui sont victimes de la réponse israélienne. Donc si vous voulez, colonisation, oui, mais même s'il n'y a pas de recolonisation israélienne, finalement, c'est toujours la même question, c'est quoi le projet ?